Bonjour Tristan Thil, l'un des auteurs de Florange, une lutte d'aujourd'hui, bande dessinée parue aux éditions d'Argo, rencontre Jean Rollet, président de la Maison des Hommes et des Techniques, ancien délégué CFDT au chantier du Bijon.
Dès qu'on a reparlé de Florange, moi j'étais tout de suite intéressé par ta venue et puis par la présentation de votre travail, parce que pendant toute la période de conflit de la sidérurgie et des hauts fourneaux, moi ça m'a fait revivre le chantier naval. C'est-à-dire que Florange, pour nous, c'est un petit peu un remake un peu de ce qu'on avait vécu, nous, 20 ans auparavant. Quoi.
C'était quel genre de lutte ici, en fait? Le conflit, il a pris quelle forme? Enfin, c'était... la question est large, mais oui. Et hyper ouverte. Mais disons que, par exemple, ce que je me demande, c'est est-ce que vous étiez tous soudés? Est-ce que c'était le... Ou est-ce que c'était plutôt un petit noyau, comme ça a été à Florange? Est-ce que vous aviez une direction qui était sur place avec laquelle vous étiez en conflit direct? Ou est-ce que c'était quelque chose qui, quelque part, était plus abstrait, comme aussi à Florange? Du coup, c'est la direction
là, plus... Là, tu me poses 50 questions à la fois, parce que chacune d'entre elles, ça nécessite un vrai développement.
Non, mais rapidement, c'était quoi la
d'abord, ce qu'il faut
le contexte
situer,
du conflit?
Ce qu'il faut situer, c'est que les chantiers navals, c'était un haut lieu des cultures ouvrières, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'était un lieu, en fait, où les solidarités entre les gens étaient très fortes, où il y avait un taux de syndicalisation aussi qui était énorme, puisque à l'époque, on a été jusqu'à 60-65% de syndiqués dans la boîte. Tu vois. Et donc, il y avait une culture très forte, et ce qui fait que les gens étaient très soudés, très combatif, ça faisait partie, c'est un peu de l'image de marque des gars de la navale, c'était un peu la locomotive d'ailleurs de la métallurgie nantaise, tu vois, d'autant plus qu'on était aux portes de la ville, enfin même pas aux portes de la ville, on est dans la ville, au cœur de la ville, ce qui fait qu'avoir les gars de la navale, ça assurait tout de suite un succès de la manifestation, tu vois, et tout ça, donc voilà, donc c'était un lieu très fort, et... Au moment, effectivement, où on s'est trouvé confronté à la fermeture des chantiers, évidemment, il y a eu une espèce de... Comment je pourrais dire ça on était les dépositaires, et on se sentait comme ça, les dépositaires, si tu veux, de toute une culture, de toute une tradition, en fait, qui était... deux fois, trois fois séculaire, si tu veux, qui nous était transmise, et qu'on devait être à la hauteur de ça. Pour nous, c'était préoccupant. On savait très bien que le chantier... Enfin, on sentait bien qu'on aurait du mal à sauver le chantier, mais qu'il fallait que notre bagarre elle soit un peu à la hauteur, en fait, des générations qui nous avaient précédés. Tu vois, il y avait une espèce de... On appelle un baroud d'honneur, un peu, qu'on appelle ça. Ce qui fait que, donc, on s'est battu. Alors, je vais pas te reprendre toute l'histoire, mais simplement, vraiment, le moment de décision de fermeture. Parce que, si je veux reprendre l'histoire, la fermeture a commencé en 1960. Donc ça a été petit à petit une dégringolade depuis 1960. C'est-à-dire la fin, en fait, des grosses années d'après-guerre, avec des effectifs dans les chantiers qui étaient gonflés, tout ça. Puis ensuite, petit à petit, il y a moins de commandes, il y a moins de bateaux à faire, il y a la concurrence internationale, etc. Et tout ça, ce qui fait que, petit à petit, on assistait aux fusions. Il faut savoir qu'à Nantes, il y avait trois chantiers à Nantes, avec à peu près 8000 salariés dans les chantiers, ce qui était quand même important. Mais ça va dégringoler au fil du temps. Alors, juste pour aller à la dernière période, en fait, c'est les décisions prises dans les années 80, en fait, au plan européen de diminution des capacités de production. Et puis ça va se traduire par la fermeture en France de 4 chantiers sur 5, dont le chantier nantais, quoi. Et donc là, alors les bagarres, on va dire, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de dire les bagarres, parce qu'on en a mené pendant toutes ces périodes-là, et essentiellement des balades des bagarres anti-fermeture. Et puis... Donc, alors là, si, tu veux, si on reprend un peu le calendrier, il y en a eu grosse bagarre 77 déjà, ça on commençait déjà, parce que l'érosion des effectifs, tout ça c'était important. Puis ensuite, ben, 82, 83, 84, 80. Alors 85 particulièrement, c'est le moment où les décisions qu'on nous a annoncées amenaient directement à la fermeture du chantier. Et là, donc, je me souviens que comment on a appris ça juste avant l'été 85, et donc on est parti en conflit juste le jour même de la rentrée de congé. Quoi. On s'est frotté au CRS d'ailleurs ce jour-là. C'était bien le seul jour où moi j'ai pris des pelles par les CRS d'ailleurs. Le 31 août 1985, tu vois, c'était ce jour-là. On est parti en conflit ce jour-là. Et puis, ma foi, c'est un conflit qui s'est prolongé jusqu'à la mi-novembre.
D'accord. Et ce que je disais, c'est que... Fin...
Alors les formes, tu veux savoir les formes.
Ouais, c'est-à-dire que c'était... Bon, en même temps, tu me dis, c'était... Voilà, c'est le milieu des années 80, donc c'est encore les grands rassemblements, etc. Est-ce qu'il y avait... une arme particulière que vous utilisiez
On était, d'abord, on était quand même... C'était plus trop les grandes manifs non plus. Tu sais, ouais. On était... finalement, on s'est retrouvés relativement isolés à se bagarrer contre la fermeture de notre chantier. Parce que bah, y avait, c'était le merdier dans toute la, partout, hein, tu vois, dans toute la métallurgie. Tout le monde était en dégringolade et tout ça. Donc c'était très difficile d'avoir une mobilisation plus large autour de ça. Personne n'y croyait. Les édiles locaux n'y croyaient pas non plus. Donc il n'y avait pas de mobilisation, si tu veux. Par exemple, il n'y a jamais eu de ville morte, il n'y a jamais eu de trucs comme ça. Donc il a fallu qu'on se débrouille, hein, nous, les gars du chantier. Alors la forme que ça a pris... on n'était pas en grève générale, on se battait tous les jours. Tous les jours, on prévoyait, et ça durait les 2 mois, hein, pratiquement, bon, on menait une action. L'objectif qu'on avait, alors, si ça contribue à comprendre un petit peu, notre objectif, c'est de dire, si, nous, boîte privée, si on reste dans notre boîte, personne ne parlera de nous, on gêne personne. Et puis on peut bien crever que, tu vois, personne, ça ne change rien du tout. Bon. Donc notre idée, c'était tous les jours, il fallait qu'on sorte dans la ville et qu'on pousse des actes qui fassent caisse de résonance, qui fait que les médias s'emparent de... tu vois. Et c'est de ce côté-là, c'est ce qu'on a fait. Alors on décidait d'aller...
Une utilisation des médias, quand même, déjà, quoi.
Ah, très forte, oui. C'était notre objectif. Hein. C'était vraiment l'objectif, c'est de dire demain, il faut qu'on ait encore un placard dans le journal, il faut que la télé soit déplacée, tout ça. Et quand ça marchait pas, parce que des fois, on choisissait un truc, bon. Je me souviens un jour, on était parti Place Royale. On dit, tiens, on va aller construire des échafaudages sur la Place Royale. Là, c'est un bordel, ça va semer la zone dans la ville et tout ça. Bon, on finit notre bazar. Pas un CRS, rien du tout, donc pas de télé, machin, tout ça. Ouais, alors bon, et il nous restait des tubes, on est passé juste à côté de la Place Royale, on est passé Place du Commerce, là, et puis bah, on a commencé à déglinguer les grandes vitres du Palais de la Bourse, tu vois, les faire tomber. Ben là, ça n'a pas duré longtemps, là, 5 minutes après, ils étaient là, puis le lendemain, les télés sont venus aussi sec, évidemment, tout ça, puis le lendemain, on avait notre placard habituel, tu vois. Voilà, il y a eu des choses comme ça... Bon. Donc ça a été ça pendant les 2 mois. Donc tous les... Alors on faisait ça. On rentrait à la boîte. Le soir, bah, on se dit... qu'est-ce qu'on fait demain, quoi, tu vois, c'était... Qu'est-ce qu'on fait demain, parce que... Et qu'est-ce qui va faire parler de nous demain, quoi. Donc on décidait ça le soir. Et puis pof, le lendemain, on mettait ça en œuvre. Et puis voilà.
Il y avait beaucoup de syndicats.
On avait deux, on était deux organisations, enfin trois avec la CGC. Hein, il y avait la CFDT, la CGT comme organisation syndicale.
Ensemble.
Alors, bah, bien obligé.
Ouais.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à Nantes, comment on pourrait expliquer ça ? À Nantes, il y a une vieille tradition d'unité syndicale. Il y a plusieurs syndicats, et entre autres, entre la CFDT et la CGT, il y a toujours eu des concurrences, évidemment, Hein, la CFDT était majoritaire en Loire-Atlantique, en plus. Donc ce qui n'était pas forcément habituel dans le paysage français, quoi, tu vois. Mais donc la CFDT était majoritaire dans la métallurgie. Et il y avait une nécessité, de toute façon, de bosser ensemble. Enfin, parce que sinon, ça ne marchait pas. Quand la CGT lançait un truc toute seule, ça ne marchait pas. Quand la CFDT lançait un truc toute seule, ça ne marchait pas non plus. Il y avait une contrainte. Et puis les gars, ils exigeaient vraiment qu'on ait de l'unité d'action. Donc c'est vraiment une tradition nantaise. Qui remonte à 1955, au gros conflit de la métallurgie de 1955. Hein. C'est à partir de ce moment-là, y a vraiment la région est marquée par ça, par l'unité entre les organisations syndicales. Ça se tapait, bien sûr, comme partout. c'était un petit peu conflictuel, hein, entre organisations, mais il n'empêche que toutes les actions étaient unitaires.
Toi, t'étais CFDT.
J'étais CFDT, oui. Ouais. Ouais.
Et les chantiers sont où maintenant?
Les chantiers,
ils ont fermé le chantier, mais c'était pour.
C'était pour diminuer les capacités de production. C'est pas pour les déplacer, les matailleurs, ou les délocaliser, ouais, ou des trucs comme ça. C'était simplement, pas simplement.
Baisse des commandes, baisse de la demande, donc réduction.
C'est des décisions européennes. Hein, qui ont été prises dans les années 80, mais ça avait commencé avant, je te dis, hein, mais dans les années 80 particulièrement, pour dire il y a une surcapacité de production dans les chantiers navals européens, donc il faut en supprimer. C'est aussi simple que ça. Hein, c'est une décision contre laquelle il n'était pas facile forcément de se bagarrer, parce que c'était pas basé sur des critères économiques. C'était pas pour dire on va fermer tel chantier parce que ceux-là ils sont pas rentables, donc on les ferme, on garde que les chantiers rentables. Non, ça a été basé en fait sur une décision européenne de dire on fait le calcul mathématique et par rapport au nombre de chantiers navals qui existent aujourd'hui en Europe, eh bien voilà, il faut diminuer les capacités de production de temps. Ça veut donc dire que ça passe par des fermetures de chantiers. Après, tu peux toujours dire, ouais, mais nous, notre chantier, il fonctionne. On s'en fout royalement. Le problème n'est pas si votre chantier, il est compétitif ou pas. Pourquoi ? Parce qu'il y avait
une baisse de la demande de...
Alors c'est vrai qu'on était dans une crise de mondiale un petit peu au niveau de la construction navale, dans la mesure où, alors d'une part... Il y a des nouveaux pays s'étaient mis à fabriquer des bateaux. Hein, et ça avait commencé, ça, dès après les années 60, on a commencé...
— Donc c'est pas de la délocalisation, mais c'est la concurrence, en fait, de
pays... — concurrence internationale, ouais. Pays qui produisent à beaucoup moins cher. Ouais, toi, ouais. Nous, on nous donnait en exemple, je me souviens, les Coréens, par exemple. Toi, le directeur de production, qui était en 77, qui revenait de Corée, en disant « Ouais, alors en Corée, là-bas, je suis allé voir les chantiers navals, tout ça. » Mais donc nous, on n'est pas compétitifs, faut absolument... Et c'est là qu'ils nous avaient pondu, entre autres, des idées de dire « Il faut qu'on trouve des gains de productivité. Entre autres, on va vous repiquer tous les temps que vous avez de déplacement dans le chantier pour se changer, pour aller au bateau et tout ça. On va vous les repiquer pour rentabiliser le chantier, pour être concurrent. Bon, c'est ridicule quand on voit ça d'aujourd'hui. Il n'empêche, deux mois de grève avec occupation d'usine en 77 autour de ces putains de pendules, hein, tu vois, parce qu'ils avaient déplacé les pendules. Donc on avait appelé ça la guerre des pendules à cette époque-là. Donc il y a eu tout ça. Ça s'est traduit par des restructurations de chantier dans les années... La première crise, si tu veux. À Nantes, on avait trois chantiers. À Saint-Nazaire, il y en avait deux. Tu vois, Saint-Nazaire, ils sont passés à un seul chantier. Enfin, Ouette et puis Loire, ils sont regroupés pour faire un chantier. Nantes, on était trois chantiers. Et entre 60 et 70, on est passé à un seul chantier. On est passé de 7000 salariés, 7 à 8000, hein, à peu près, dans les chantiers, à 2500. En 1970, tu vois, on était 2500 dans les chantiers nantais. Donc il y avait eu une plongée très forte. Et ça n'a pas suffi, parce qu'après, on s'est retrouvé pendant combien, 3, 4 ans, avec à peu près, ça allait à peu près. Puis il y a eu la crise pétrolière. Donc on nous a redit que ça y est, il n'y a plus de récession économique, trop de machins et tout ça. De nouveaux pays, pendant ce temps-là, faisaient des bateaux, hein, parce que ça a été le Japon d'abord, mais ensuite c'était la Corée, ça a été le Brésil, c'était les pays d'Europe du Sud, ça a été après l'Europe de l'Est et tout ça. Il y a eu en permanence une concurrence internationale qui fait que le discours, évidemment, qu'on nous faisait, c'était le manque de compétitivité par rapport... Donc, etc. Mais On est dans des trucs, qui sont pas loin des discours qu'on entend encore aujourd'hui. Et donc, ça, c'est à partir de là, ils ont décidé les fermetures de chantier. Et en France, c'est quelque chose d'énorme, hein, puisque en France, en fait, on est passé de 5 grands chantiers plus 1 moyen. Hein, on se met au début des années 80, on avait les chantiers de la Seine, avec la Seine et la Ciotat, plus Dunkerque, c'était ce qu'on appelait les chantiers de Méditerranée, plus Dunkerque, mais bon, Nord-Méditerranée, Nord-Med, on disait la Nord-Med, hein, voilà, 3 chantiers. Et puis il y avait Nantes-Saint-Nazaire, et puis il y avait Le Havre. Voilà. Et on se retrouve à fin des années 80, avec, en France, du coup, un seul chantier naval, qui est le chantier de Saint-Nazaire.
Tristan Thil, l'un des auteurs de Fleuranges, une lutte d'aujourd'hui, bande dessinée parue aux éditions d'Argot, rencontre Jean Relais, président de la Maison des Hommes et des Techniques.
Et on se retrouve à fin des années 80 avec, en France, du coup, un seul chantier naval, qui est le chantier de Saint-Nazaire. Tu vois, tous les autres, en fait, ont été liquidés sur l'argumentation de dire il faut baisser les capacités de production des chantiers français. Tout simplement, c'est la consigne et point final. Au point même, je vois le site des chantiers ici, par exemple, t'as un gars qui a voulu reprendre les chantiers qui s'appelle Le Roux et l'Hôte. Ils ont voulu reprendre le chantier parce que lui, il faisait il avait une petite activité navale de plus petites unités, tout ça. Eh bien, il a fait de ses pieds et de ses mains. C'était pas possible parce que l'obligation européenne sur les sites qui fermaient, c'était que définitivement, on n'y faisait plus de construction navale, quelle que soit la taille, quel que soit tout ça. Tu vois, voilà. On était dans ce schéma-là, en fait. Tu vois. Donc se battre contre ça, c'était pas évident, d'abord parce qu'on se battait pas contre nos patrons locaux. Je dirais, nos patrons locaux, ils nous poussaient à la roue pour qu'on aille faire le bazar autant que c'était possible. Ils étaient presque complices, des fois. Person, qui était notre directeur à la fin, qui reconnaît lui-même, d'ailleurs, aujourd'hui, qui s'était bien fait rouler, lui aussi, par ses propres patrons, quoi, et tout ça. Il jouait le jeu. Donc nous, on l'avait foutu dehors pendant cette période. On avait foutu le patron dehors. Tu vois, voilà un exemple de bagarre qu'on avait fait. On l'avait licencié, notre patron. Donc on l'avait emmené son bureau sur le trottoir. Et puis on l'empêchait de rentrer. Donc tous les matins, il venait voir avec un huissier. Est-ce que je peux rentrer? Alors non, il constatait. Et puis, par contre, les gars, pendant ça, nous, on restait dans le chantier. Alors dire que la production était énorme, pas forcément, mais on restait dans le chantier. Tu vois, comment le patron, à un moment donné, avait demandé à ses cadres, mais il faut peut-être qu'on ferme le chantier, quoi, ça peut pas durer comme ça. Puis les cadres ont dit non, les gars viennent au chantier, ça marche normalement, pas question. Donc ils avaient loué des bureaux en ville, et puis ça a duré le temps. Alors après, c'est toujours pareil dans nos stratégies, ce qu'on disait, c'est qu'on va pas tenir ça pendant 107 ans, donc ce qu'on se faisait, c'est qu'on se fixait, on disait, bon, qu'est-ce qu'on demande en échange? Pour le laisser re-rentrer, qu'est-ce qu'on demande en échange, tu vois. Et là, bon, on avait demandé, en fait, qu'il y ait une rencontre tripartite gouvernement, en fait. Gouvernement, groupe Alstom, et puis nous, quoi. Donc on avait obtenu ça, c'était passé chez Edith Cresson, là-bas, à l'époque, tu vois. Mais avec le patron d'Alstom, c'était deux genres de compagnie, tu vois. Donc on avait obtenu cette réunion-là. Donc on avait dit, bon, puisqu'il nous a obtenu sa réunion, c'est bon, on va le laisser rentrer, quoi, tu vois. Enfin, bon. Mais en même temps, il était complice de ça, parce que lui, il était conscient que c'était avec des trucs comme ça, peut-être qu'on avait une chance, peut-être une chance de garder une structure de production à Nantes.
Il y a eu des visites d'hommes politiques.
Mauroy. C'était en 81.
Mais comment vous les receviez, ces personnalités politiques?
Alors Mauroy est venu en 80... Non, début 82. Début 82, qu'il est venu nous voir. Exactement. Et ici, on était quasiment en situation de dépôt de bilan, parce qu'il y avait eu un bateau qui s'appelle Scandinavia, qu'on venait de réaliser, qui avait été pris qui avait été très mal négocié, enfin, qui avait été négocié en dessous de son prix réel, parce que... Alors c'était compliqué, tu sais. C'est une situation compliquée, parce qu'on avait le droit qu'à un certain quota d'heures de travail et tout ça. Donc si tu prenais du boulot au-dessus, tu n'avais plus le droit aux aides de l'État. Donc ils avaient triché sur le prix du bateau pour qu'on l'ait quand même. Sauf qu'après... Puis en plus, le dollar avait dû... c'était en dollars, hein, ouais. Et donc le dollar avait dû valser. Et donc on s'est retrouvé en dépôt de bilan. Donc Mauroy est venu là et il a imposé... C'est au moment où il a imposé la filialisation de notre chantier par rapport à la reprise par Alstom. pour essayer de sortir de ce truc-là. Alors, Mauroy avait été bien reçu. Oui.
Est-ce que vous avez été approché par le monde politique? Et est-ce qu'on vous a proposé d'être tête de liste
On ne m'a pas proposé d'être député européen. Oui, non. Non, mais le contexte n'est pas tout à fait celui qu'on avait à l'époque. Hein. Aujourd'hui, le contexte n'est pas celui... Enfin, si on compare Gandrange, pas Gandrange, mais Florange donc à notre situation, à nous, on n'est pas du tout on n'est pas à la même époque, entre guillemets, pas dans le même... Moi, j'étais au Parti Socialiste à l'époque, hein, je peux te dire, et on était toute une bande ici. Moi, j'étais au Comité Fédéral du Parti Socialiste, mais en même temps, j'étais à la tête des troupes des gars du chantier. J'étais à la tête des troupes des gars du chantier. Je me vois encore à la fédération du Parti Socialiste avec la manif du gars des chantiers, tu vois. Et puis, hop, sonnait à la porte. Charles, qui était le secrétaire fédéral, il faudrait que tu reçoives une délégation des gars du chantier. Tu vois, il dit comme ça. Bon, il me dit non, il n'est pas question que je cède à la pression. Il dit écoute, Charles, soit tu nous ouvres la porte, soit de toute façon, dans 5 minutes, on est chez toi. Non, il n'est pas question, je ne céderai pas. Il dit écoute. Alors, pof, j'appuie sur le bouton de l'interphone. Et puis, les potes qui étaient à côté, ils avaient une barre de fer. Donc, pof, la vitre de la fédération qui casse. Il dit excuse-nous, Charles, tiens-toi prêt, on arrive. Et puis là, alors, du coup, on est montés tous en manif. Chez lui, tu vois. Et puis là, la moitié des mobiliers, tout ça, qui a passé par les fenêtres. Et puis, moi, après, je me retrouvais, 4 jours après, eh bien, au Comité fédéral du Parti Socialiste, où là, on me demandait des comptes, aussi bien le héros, d'ailleurs, que les secrétaires et tout ça, tu vois. On était dans une situation un peu complexe, si tu veux, de ce côté-là. Mais bon, il n'empêche que... je le dis sans hésitation, moi je dis, ils ont contribué à la fermeture de notre chantier. C'est-à-dire qu'ils n'ont, à aucun moment, ils n'ont cru qu'en faisant pression sur les choses, on pouvait changer justement le cours des choses. Pour eux, ils ont avalisé que, non, c'est baissé, quoi, puis c'est tout, on n'y peut rien, c'est la fatalité. Alors, c'était pas eux qui dirigeaient la ville, mais on avait des députés, on avait 5 députés socialistes, on les avait fait venir d'ailleurs dans le chantier, parce qu'il y a tous les 5, ils balisaient, comme je ne sais pas quoi. Ils nous avaient appelés, nous, pour demander, les gars, vous nous garantissez qu'on ne va pas se faire Parce que ce qu'ils n'étaient pas conscients, en fait, c'est que le conflit qu'on a porté à cette époque-là, il y avait aussi une partie de mise en scène dans ce conflit-là. Il y avait une partie de mise en scène dans la mesure où personne ne pensait qu'on allait pouvoir tirer les affaires, quoi, si tu veux. Et donc, mais par contre, il fallait qu'on soit à la hauteur quand même de ça. Donc il fallait qu'on se bagarre. Alors on se bagarrait, mais les gars n'y croyaient pas. Donc en fait, à chaque fois, y compris toutes les manifs qu'on faisait, il y avait une espèce de mise en scène de la colère. On disait, comment aujourd'hui on va exprimer que, et tout, voilà, c'est un peu comme ça que les choses ont fonctionné. Quoi, hein, mais moi, j'ai pas vu au chantier... de manifs, si tu veux, par exemple, où on était débordé par les gars, et puis que ça y est, oh là là, putain, il faut qu'on les retienne, parce que tu vois qu'on voit dans certains cas un certain nombre de violences. Alors moi, je me pose toujours la question, d'ailleurs, maintenant, quand je vois des bagarres, parce que je me dis, ils sont pas différents de nous, les gars. Il y a aussi des mises en scène des choses, quoi, parce que c'est une arme, c'est un outil qu'il faut essayer de... Tu vois. Donc, où est la limite entre la désespérance et effectivement, au contraire, la maîtrise d'un combat, mais qu'on mène et on joue des pions parce qu'on sait que ces pions-là vont peut-être... tu vois. Et je pense, Florent, quand je regardais les conflits à Florent, je pensais un petit peu ça aussi, tu vois. Je disais, quelle est la part, là, de désespérance mais en fait, ils n'ont pas mené des combats... désespérés, si tu veux. Les formes de lutte qu'ils avaient n'ont pas semblé désespérées à Florange.
Non, c'est vrai, t'as raison. Hein? Mais c'est à Florange, c'était quelques mecs, quoi, qui étaient à la manœuvre, quoi, et qui organisaient les actions, les machins et tout, qui faisaient qu'on parlait de Florange, tu vois. Mais ils étaient une vingtaine, quoi, tu vois. Mais ça suffisait parce que, comme tu disais tout à l'heure pour les chantiers navals, l'essentiel c'était qu'il fallait qu'on en parle.
Oui, il y a des similitudes en fait.
Il fallait que les politiques aient la sensation qu'il y avait la masse.
Voilà.
Et que ça allait peser en point de. En tout cas en bulletin de vote, en fonction de ce qu'il déciderait, quoi, qu'il ferait, etc.
Ouais. C'est pour ça qu'il y a des ressemblances avec nous.
C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Quoi.
À Florence, je ne sais pas comment ça se passait là-bas, mais chez nous, l'avantage qu'on avait, si tu veux, c'est que globalement, massivement, les gars, ils voulaient qu'on fasse des démonstrations de force collective. Tu vois ? Et donc, les gars, on les emmenait. On n'avait aucun problème pour emmener, 80% des gars du chantier. Tous les jours, on les emmenait en ville, tu vois. Et puis les mecs, ils venaient avec nous. Par contre, les mecs, ils venaient, mais il ne fallait pas compter sur eux pour prendre des initiatives fortes. Il fallait que nous, les organisations syndicales, si tu veux, eh bien, on prépare une action, qu'on la fasse d'une manière un peu volontariste, si tu veux, qu'on trouve les quelques bras nécessaires pour pouvoir les faire, tu vois. Et c'est comme ça que ça marchait. Les 90% des gars, eux, ils venaient dans la manif, ils y participaient. Mais par contre... je me souviens, parce qu'on utilisait déjà l'audiovisuel, nous aussi, et puis on restituait, parce qu'on avait des copains qui filmaient, puis qui restituaient ça quand on revenait et tout ça. Et là, l'ensemble des gars s'appropriait, y compris les frottements avec les CRS et tout ça, si tu veux, ça devenait quelque chose d'héroïque collectif et tout ça, alors qu'effectivement, c'était là aussi quand même une équipe de militants. On va pas dire... je vais pas dire qu'il y avait une dizaine de gars. C'était plus vaste que ça, parce qu'il y avait quand même des réseaux militants importants dans le chantier, que ce soit chez nous ou à la CGT, si tu veux. Donc mais c'était quand même une petite minorité quand même par rapport à l'ensemble des troupes, quoi. C'est pour ça qu'on n'avait pas de mal à maîtriser nos troupes, quoi. Tu vois, c'était comme ça.
Merci à Tristan Thil, l'un des auteurs de Florange, une lutte d'aujourd'hui, bande dessinée parue aux éditions d'Argot, et merci à Jean Relais, président de la Maison des Hommes et des Techniques, pour leur libre participation à ce magazine.